Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Une demi-heure pour tout savoir de l'actualité et la décrypter avant que vous ne preniez la parole au 32-10. Et en ce lundi 1er octobre, cette question: comment prendre soin de nos aînés? Toutes vos idées seront prises en compte. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, lance tout à l'heure une grande consultation nationale qui va durer des mois avant un projet de loi l'année prochaine. Elle sera l'invitée d'RTL Midi en avant-première dans quelques minutes. Encore une bagarre entre bandes rivales, cette fois à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. 32 personnes sont en garde à vue, certaines étaient lourdement armées. Quand Marlène Schiappa tacle Marine Le Pen, elle est leader d'un grand parti raciste d'extrême droite, a dit ce matin la secrétaire d'État sur RTL. Un anniversaire en forme d'opération coup de poing à Barcelone pour fêter les 1 an du référendum d'autodétermination. Les séparatistes catalans ont bloqué de grandes avenues de la ville, des autoroutes et aussi des voies de chemin de fer. Enfin, une émouvante histoire de retrouvailles entre un frère et une sœur après 59 ans de séparation, presque toute une vie. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Avec un petit vent bien glacé.
Ah, c'est le vent du nord qui souffle sur une bonne partie du pays cet après-midi, qui accentue la sensation de fraîcheur. Vent qui souffle très fort même en Méditerranée. Le Mistral et la Tramontane jusqu'à 100 km/h en rafale, notamment en basse vallée du Rhône et près du golfe du Lion, où là le ciel est parfaitement dégagé, c'est du plein soleil cet après-midi. Sur l'Est, le temps est très nuageux, instable avec des averses, et c'est l'arrivée de la neige aujourd'hui au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes. Et sur l'Ouest du pays, retour des éclaircies avec des températures comprises cet après-midi entre 12 et 25 degrés, 12 à Besançon, 15 à Brest, 16 à Paris et Bourges et jusqu'à 25 degrés à Bastia.
La question du jour sur RTL.fr: faut-il doubler les peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes, comme le suggère Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France? Vous dites oui à 78%, 16% de non. Vos appels au 32-10, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle.
J'imagine que vous allez y revenir.
Évidemment, est-ce que vous avez le sentiment que l'insécurité grandit dans vos villes? Vos témoignages au 32-10. Vous avez peut-être écouté ce matin Muriel Robin. Ce soir, elle incarne Jacqueline Sauvage, les violences conjugales. Si vous en avez subi, et si vous en êtes à l'origine? Parce qu'elle a aussi parlé de ceux qui en étaient à l'origine. Elle a eu des mots très étonnants d'ailleurs, parce qu'elle a dit ce sont aussi des victimes. Eh bien, vos témoignages peuvent nous intéresser, comme nous intéresse votre avis sur Emmanuel Macron et la fameuse photo qui fait débat.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Un adolescent de 17 ans passé à tabac à Garges-lès-Gonesse. Les images ont choqué ce week-end. Un bus caillassé à Angoulême, un autre à Nantes. À chaque fois des phénomènes de bande. Et une nouvelle illustration à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. 32 personnes âgées de 13 à 27 ans sont en garde à vue à la suite d'une bagarre entre deux groupes qui, miraculeusement, n'a pas fait de blessés. C'était hier dans le quartier du domaine de la Vallée, en fin d'après-midi, avec des suspects lourdement armés. Quentin Vinet, vous êtes sur place pour RTL. Que s'est-il passé exactement?
Eh bien, cela a tout l'air d'une expédition punitive préparée entre deux bandes rivales, effectivement, celle du domaine, là où ça s'est passé, et celle du quartier d'en face, les Merisiers. C'est ce que racontent plusieurs témoins de cette énième bagarre en début de soirée, quand une cinquantaine de jeunes arrivent à bord de quatre véhicules pour en découdre au milieu de la rue et des petits immeubles. Un impact est encore visible sur une porte vitrée. Ces deux jeunes filles parlent d'une bagarre très impressionnante et violente.
La rue, ça ressemblait plus à une rue, là. C'était franchement...
Wow. On dirait un lieu de guerre.
Voilà. Franchement, c'était plus une rue, c'était choquant. Il y avait de la foule de partout. Ils étaient partout, en fait.
En tout cas, moi, je sais qu'ils sont venus pour frapper un jeune ici. Mais le jeune n'était pas là.
Quand la police arrive dans le quartier, la rixe est terminée, mais des habitants identifient et décrivent quatre véhicules. C'est une heure plus tard que les policiers retrouvent une camionnette et une voiture, puis deux autres voitures avec à bord 32 jeunes, toujours regroupés, surtout des mineurs, avec des battes, des brise-glaces, des câbles électriques, des couteaux et même un katana, un sabre japonais. Tous ces jeunes sont donc interpellés. Ils sont toujours en garde à vue à l'heure qu'il est, et des enquêteurs étaient sur place ce matin pour des constatations.
Quentin Vinet à Mantes-la-Ville pour RTL. Elles s'appelaient Laura et Morane. La vie de ces deux cousines de 20 et 21 ans s'est arrêtée il y a un an tout juste à la gare Saint-Charles à Marseille, assassinées à l'arme blanche par un terroriste. Une plaque à leur mémoire a été dévoilée à la gare ce matin par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Étienne Baudu et les proches de ces deux jeunes filles ont tenu à prendre la parole.
Oui, devant cette plaque apposée là où les deux jeunes femmes ont perdu la vie sauvagement assassinées, c'est Fabrice, le papa de Laura, l'élève infirmière à Lyon, qui allait reprendre son train ce dimanche après-midi, qui prend la parole en premier.
Morane, Laura, plus de câlins par surprise. Plus d'espoir de petits-enfants que vous chérissiez tant. Un an d'absence insupportable qui nous fait pleurer sans prévenir. Un an que nous luttons contre notre colère. Un an que nous sourions parfois sans envie. Vous êtes désormais notre lumière.
C'est au tour de Sylvia, la maman de Morane, l'étudiante à Marseille en troisième année de médecine, qui s'avance, toujours très digne.
Avancer, vivre, ne plus survivre, nous essayons. Avec nos souvenirs pour bagages, ce n'est pas facile. En ce jour de terrible anniversaire, c'est ensemble de tout faire pour transformer le sang en lumière et votre absence en amour.
Enfin, c'est aussi le cri du cœur de Mathilde, une amie de Laura.
Il y a un an à 13h, je recevais une dernière photo avec comme commentaire « Déjà le départ de Marseille, prise ici à côté de Morane, quelques minutes avant l'impensable. Quelle injustice ! Tu me manques, Laura. »
Les familles ont ensuite déposé des roses blanches avec en fond sonore une chanson de Françoise Hardy, « Tant de belles choses ».
Le village d'origine de Morane, une messe sera célébrée pour la famille tout à l'heure à 18h. C'est impardonnable. Marine Le Pen s'est insurgée de la photo prise à Saint-Martin où l'on voit Emmanuel Macron poser avec un jeune qui fait un doigt d'honneur. C'est le frère d'un ancien braqueur, lui aussi aux côtés du président. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a taclé la présidente du Rassemblement national. C'était ce matin au micro d'Elisabeth Martichoux.
Les commentaires de Marine Le Pen n'ont absolument aucun intérêt qu'elle s'occupe de ce qui concerne son parti.
Elle est leader d'un grand parti qui
oui, elle est leader d'un grand parti raciste, d'extrême droite. Ce qui la choque, c'est pas que le président pose à côté d'un jeune. Ce qui la choque, c'est la couleur de peau de ce jeune, soyons très clairs. À chaque fois que le président pose avec des personnes qui sont de couleur noire, Marine Le Pen s'offusque. Donc je trouve que ça n'a pas grand intérêt.
Marlène Schiappa qui a annoncé ce matin sur RTL une série de mesures pour enrayer le fléau des violences conjugales, faire en sorte que les femmes parlent avant qu'il ne soit trop tard, et donner l'alerte si on est témoin.
Quand on est témoin de situations de violence faites aux femmes, on se doit de réagir. On n'est pas obligé d'agir personnellement, mais on peut toujours au moins appeler le 17. Si on agit tous à notre niveau, avec nos moyens, ben on va faire reculer la violence.
Voilà, c'était un extrait de la campagne lancée hier sur les chaînes de radio et de télévision. Et la secrétaire d'État s'engage par ailleurs à ce que 100% des appels d'urgence puissent être pris en compte et débloque une subvention supplémentaire de 120 000 euros à la fédération qui gère le numéro d'urgence, justement, le 3919. En Suède, un Français, Jean-Claude Arnault, vient d'être condamné à 2 ans de prison pour viol dans une affaire liée au mouvement MeToo. Cet homme est marié à une académicienne qui entretenait des liens étroits avec les jurés du Nobel. Ce scandale avait empêché l'attribution du prix Nobel de littérature l'année dernière. Un nouveau départ à Air France. Le DRH Gilles Gâteau quittera ses fonctions le 12 octobre. Le nouveau PDG rencontre dans quelques minutes l'intersyndicale. Dans un instant, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, l'invitée d'RTL Midi, pour lancer une grande concertation sur le sort de nos aînés.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Et l'invité d'RTL Midi, c'est la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez choisi pour annoncer le lancement d'une grande consultation publique sur le grand âge. Alors, on rappelle que 1,5 million de personnes ont actuellement plus de 85 ans dans notre pays et qu'elles seront 5 millions en 2050. C'est dire l'urgence et l'ampleur de la tâche. Et vous allez poser directement cette question aux Français. Comment prendre soin de nos aînés? Alors, comment ça va se passer?
Alors, nous ouvrons aujourd'hui une grande consultation citoyenne sur Internet, auquel tous les Français peuvent évidemment contribuer, qui s'appelle « Comment mieux prendre soin de nos aînés » sur make.org, mais il suffit de taper « Comment mieux prendre soin de nos aînés ». Et on donnera des idées en 140 signes pour proposer des solutions ou des initiatives qui permettraient d'aider les personnes âgées à mieux vieillir. Alors ça peut être autour de la prévention de la perte d'autonomie, autour de la prise en charge dans les EHPAD, autour des activités culturelles ou de l'alimentation. Ça peut être aussi sur les métiers. Qui accompagnent les personnes âgées. On a beaucoup parlé des aides-soignantes, des infirmières dans les EHPAD. Comment faire en sorte que leur qualité de vie s'améliore.
Et donc, vous attendez concrètement des témoignages ou des idées?
Non, des idées. D'accord. Nous attendons des solutions, des idées, et les personnes pourront également voter sur les contributions des autres internautes, ce qui permettra d'avoir une idée, une vision de ce que la société française souhaite pour la prise en charge des personnes âgées à l'horizon de 5 ans.
Combien de temps va durer cette consultation ?
La consultation est ouverte pendant 2 mois, donc elle se terminera le 1er décembre. Parallèlement, il y aura évidemment des groupes de travail avec des parties prenantes, c'est-à-dire des associations, des professionnels engagés, des personnes âgées elles-mêmes ou des aidants qui vont travailler sur une dizaine de thématiques. Et puis nous aurons également des forums citoyens en région, des forums de professionnels en région qui nous apporteront également des contributions après discussion. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir aux jeunes, aux aidants, aux personnes âgées elles-mêmes et à tous ceux qui le souhaitent, évidemment, pour proposer des choses innovantes.
Voilà, des idées. Que des idées. Aujourd'hui, nos aînés se retrouvent souvent à perdre leur dignité lorsqu'ils perdent leur autonomie. Ghettoisés, parfois même maltraités, il faut donc redéfinir leur place dans la société. Alors, selon vous, Agnès Buzyn, quelle est l'urgence ?
Alors l'urgence est grande. Je m'étais engagée lors de la crise des EHPAD à laquelle j'avais apporté un certain nombre de solutions immédiates au mois de mai dernier. Je m'étais engagée à ouvrir ce débat citoyen. Pourquoi ? D'abord, vous l'avez dit, il y a un nombre de personnes âgées qui va considérablement augmenter dans les années qui viennent. Nous sommes tous concernés par le vieillissement. Et nous savons aujourd'hui que le modèle qui a été mis en place il y a quelques années ne fonctionne plus. Il est très rigide. On rentre en EHPAD à 87 ans, souvent souvent les EHPAD sont excentrés des villes, donc les personnes sont éloignées, elles sont isolées de leur famille, elles ont du mal à rester insérées dans la société, beaucoup souhaiteraient vieillir à domicile et c'est compliqué, peut-être que l'aide à domicile est insuffisante aujourd'hui telle qu'elle est proposée, et donc l'idée de cette consultation, c'est comment intégrer aujourd'hui les personnes âgées dans notre société, afin qu'elles puissent vieillir comme elles le souhaitent.
Qu'elles ne soient plus ghettoisées. On peut parler un instant des EHPAD, et des EHPAD privés en particulier. Les personnes les plus dépendantes doivent débourser 2000 euros par mois en moyenne. Je parle bien d'une moyenne après déduction des aides existantes. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça ? Parce que ce sont des sommes colossales et parfois les personnes âgées sont maltraitées dans ces établissements-là.
Alors, aujourd'hui, l'idée c'est d'apporter des solutions. Des solutions de long terme. C'est un débat qui aurait dû s'ouvrir il y a quelques années déjà. En réalité, on l'a beaucoup repoussé pour des raisons purement financières. Et évidemment, la consultation va apporter aussi des propositions de financement de la dépendance. Car nous savons que ces besoins vont augmenter. Alors, je dirais que la première chose que je souhaite faire, c'est éviter que les personnes âgées perdent leur autonomie. Et nous savons qu'il y a des moyens très utiles aujourd'hui pour ralentir la perte d'autonomie. Il y a de la prévention à faire, elle est insuffisamment pratiquée. On est toujours dans le curatif en France. Donc d'abord, cette consultation va nous proposer évidemment des solutions pour éviter la perte d'autonomie. Mais ensuite, si elle survient pour des raisons liées à l'âge ou à des maladies, nous aurons également des propositions de financement pour mettre en place un système pérenne de prise en charge des personnes âgées dans notre société.
De financement, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aller vers la création d'un cinquième risque de la sécurité sociale, un cinquième risque lié à la dépendance ? Emmanuel Macron l'avait évoqué au mois de juillet.
Il a parlé d'un nouveau risque. Nous verrons comment nous intégrons.
C'est une possibilité.
Aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'avancer sur le financement puisque le débat s'ouvre. Et plus je répondrai sur des solutions pré-pensées par le ministère potentiellement, plus je fermerai le débat. Or, je souhaite que ce soit un vrai débat citoyen. Ça nous concerne tous. C'est vraiment par essence même une question de société. Et donc, ouvrons le débat sur le financement et nous proposerons dans le texte de loi ce qui aura retenu, évidemment, l'approbation des Français.
Et le texte de loi sera courant en 2019 ?
Nous avons promis une loi pour la fin de l'année 2019.
J'ai une question d'actualité, Agnès Buzyn. Laurence Rossignol, l'ancienne ministre des Droits des Femmes, est à l'initiative, en ce moment, d'une proposition de loi. Elle souhaite supprimer la clause de conscience pour les professionnels de santé qui refusent de pratiquer l'avortement. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Non, c'est une fausse bonne idée. Vraiment une fausse bonne idée. Évidemment, on souhaiterait que tous les médecins participent à ce service qu'on rend à des femmes en souffrance. Mais sincèrement, obliger un médecin qui, pour des raisons personnelles, ne souhaite pas pratiquer d'avortement, l'obliger à le faire, je pense que ce n'est pas un service qu'on rend aux femmes. La période où on est enceinte et où on doit se faire avorter est une période extrêmement douloureuse chez les femmes, où elles sont extrêmement fragiles. C'est un geste difficile et je trouve que d'être en face d'un médecin qui vous en veut et qui ne souhaite pas faire cet acte, c'est être certaine d'aboutir à de la maltraitance. Donc je ne souhaite pas évidemment que ce retrait de la clause de conscience et, soit voté. C'est pas tant que je souhaite que les médecins arguent de la clause de conscience, mais je pense qu'on ne peut pas obliger un médecin à bien traiter une femme s'il ne souhaite pas faire cet acte.
Merci beaucoup. Merci Agnès Buzyn d'avoir annoncé dans RTL Midi le lancement de cette grande consultation citoyenne sur le grand âge. Et vous pouvez participer via notre site rtl.fr et le hashtag donc pour nos aînés. Merci Agnès Buzyn.
Merci.
Sachez aussi que, et ça va vous intéresser, que le prix Nobel de médecine a été attribué ce matin à l'Américain Allison et au Japonais Honjo pour leur recherche sur l'immunothérapie qui se sont révélés particulièrement efficaces dans le traitement des cancers les plus virulents. Ils ont établi un nouveau principe pour soigner le cancer, disent les Nobel. Dans un instant, le reste de l'actualité avec les séparatistes catalans qui ont bloqué une partie de Barcelone ce matin.
RTL Midi avec Christelle Robière.
À Barcelone, les séparatistes ont fêté à leur façon le premier anniversaire du référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid. Ils ont bloqué visages masqués des voies de TGV, des autoroutes et les grandes artères de la capitale catalane. Reportage Aurélie Chamerois.
Circulation de TGV interrompue, plusieurs avenues de Barcelone coupées à la circulation. Les militants indépendantistes ont frappé fort ce matin en Catalogne pour le premier anniversaire du référendum.
Nous manifestons contre ce qu'il s'est passé il y a un an quand la police espagnole est entrée dans les bureaux de vote et nous a frappés.
Un an après le référendum, l'indépendantisme est au point mort et les militants commencent à s'impatienter.
Je suis déçue car il y a de moins en moins de monde dans les manifs. À force, les gens se fatiguent.
On a proclamé l'indépendance le 27 octobre, mais ça n'a pas été appliqué. Nous sommes ici pour faire appliquer ce résultat. Le peuple commande et le gouvernement doit obéir.
Ce soir, tous les indépendantistes sont invités à une manifestation que l'on annonce massive pour tenter, une fois encore, de faire entendre leur voix.
Un reportage donc Aurélie Chamerois. Quant à Manuel Valls, il promet de rester à Barcelone même s'il échoue au municipal en mai prochain. C'est un choix de vie, dit l'ancien Premier ministre qui vient de récupérer son passeport espagnol. En Indonésie, les trois Français portés disparus sur l'île des Célèbes ont été retrouvés sains et saufs. Ils vont être rapatriés dans les prochaines heures. Le bilan provisoire fait état de 844 victimes et 48 000 déplacés suite au séisme et au tsunami. Le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale. Une équipe de pompiers spécialisés a notamment quitté Limoges ce matin avec du matériel de recherche. La disparition d'Antoine Sfer, ce grand spécialiste du monde arabe et musulman, est décédé cette nuit à l'âge de 70 ans. Il avait fondé la revue Les Cahiers de l'Orient. C'était un passeur entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, dit François Bayrou, qui déplore la perte d'un ami. Des bébés sans bras ou sans mains, ce sont des malformations rares à la naissance. Et pourtant, 7 enfants sont nés avec cette infirmité entre 2009 et 2014, près de la ville de Druya, dans l'Ain. Et c'est un mystère. Peut-on mettre en cause des pesticides ou une autre forme de pollution? L'épidémiologiste Emmanuel Amar était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL et elle s'interroge.
D'accord. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a certainement une cause commune entre ces quatre cas qui sont regroupés dans le temps et dans l'espace, d'autant plus que d'autres agrégats, comme ça, on appelle ça des agrégats, ont été trouvés en Bretagne et en Loire-Atlantique. Et les caractéristiques, c'est que ce n'est pas du tout en ville, dans une grosse zone urbaine, mais à la campagne. Donc on peut penser, effectivement, c'est une hypothèse, que les zones agricoles ont pu, d'une manière ou d'une autre, participer. Mais on en est là.
Emmanuel Amar, ce matin sur RTL. Presque toute une vie sans se voir, c'est l'histoire du jour. Un frère et une sœur viennent de se retrouver. Il habite à Perpignan, elle à Nuit-Saint-Georges. Et il a passé 59 ans à la chercher. Il n'avait que 4 ans, Frédéric Perruche, lorsqu'il avait assisté à l'enlèvement de sa petite sœur.
Oui, la scène se déroule en 1958 à Perpignan, quartier Saint-Jacques. La mère d'André Lafont, 4 ans à peine, hurle dans la rue « Il a pris ta sœur ». Le kidnappeur, c'est le père du gamin militaire qui emmène Michel, 6 ans, en Algérie. À 10 ans, la fillette fugue et sera élevée dans des foyers de la DAS en métropole. Depuis, aucune nouvelle, jusqu'à cette bouteille à la mer lancée l'été dernier par Sabrina, l'une des filles d'André. Via Facebook et le journal L'Indépendant, elle tente, avec pour seul indice une photo d'époque, de retrouver la trace de Michel. Et le miracle s'opère. Des appels anonymes l'amènent jusqu'à Nuit-Saint-Georges, près de Dijon. Le frère et la sœur reprennent contact presque 60 ans après leur séparation et se retrouvent les larmes aux yeux, explique André.
C'est monté tellement haut que je ne pouvais plus parler, je pleurais, je veux dire, bon, bizarrement, quand elle a ouvert la porte, ben c'est comme si on s'était quitté il y a une huitaine. On a discuté beaucoup, énormément, mais bien souvent, j'avais la gorge quand même épineuse, mais je n'ai pas pleuré, ça s'est passé bien. Il me manquait une partie de ma vie, quoi, je veux dire. Il me manquait une partie. Et je l'ai retrouvée. C'est vraiment extraordinaire.
C'est le cas. André a su rappeler sa sœur Michel tous les jours au téléphone. Ils devraient vite se revoir. Ils ont 60 ans à rattraper.
Oui, c'était très émouvant. Merci Frédéric. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Alors Pascal, vous avez écouté le journal.
J'ai écouté Agnès Buzyn. Comment prendre soin de nos aînés? Elle demande des idées. Bah, ça tombe bien, on va appeler le 32-10. Et forcément, les uns et les autres vont demander, vont proposer des idées, pourquoi pas. Comment mieux prendre soin de nos aînés? C'est une campagne que la ministre de la Santé va lancer. Muriel Robin, on en a parlé tout à l'heure. Elle est ce soir, elle incarne Jacqueline Sauvage. Si vous avez subi des violences conjugales et si vous en êtes à l'origine et si vous acceptez l'idée de témoigner alors que vous êtes ou un homme ou une femme qui est à l'origine de violences conjugales, ça, ce témoignage nous intéresse, il m'intéresse. L'insécurité est-elle plus présente qu'avant? On en a parlé dans le journal, évidemment, avec ces bandes rivales qui s'affrontent régulièrement. Et puis la photo qui choque ou pas d'ailleurs, Emmanuel Macron à Saint-Martin, 13h-14h, Christelle.
À tout à l'heure. La météo, Patricia Charbonnier, il a enfin gelé au pic du Midi de Bigorre qui culmine à plus de 2870 mètres dans les Hautes-Pyrénées. C'est une première depuis 108 jours. Au passage, c'est un record absolu. Pas de doute, Patricia, la fraîcheur s'installe et pas seulement au pic du Midi.
Le rafraîchissement est très net, du nord comme au sud, et c'est la neige qui fait son apparition. Première chute de neige attendue aujourd'hui au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes, sous un ciel qui restera très nuageux cet après-midi sur les régions de l'Est jusqu'aux Pyrénées, avec des averses, forte rafale de vent un petit peu partout, ce vent du nord qui accentue la sensation de fraîcheur, forte rafale de Mistral et de Tramontane près de la Méditerranée, mais là le ciel est bien dégagé, c'est très ensoleillé. Et puis sur l'ouest, ça s'améliore, on avait pas mal de grisailles ce matin et progressivement cet après-midi, on retrouve les éclaircies, mais avec de la fraîcheur. 12 degrés à Besançon, 14 à Lille, 15 à Brest et à Lyon, 16 à Paris et Bourges, 20 degrés à Marseille et 25 à Bastia.
Bon, et demain, un bon classique, grisaille au nord, soleil au sud.
Du plein soleil au sud de la Loire, mais toujours de fortes rafales de vent entre les Pyrénées et la Méditerranée. Et puis sur la moitié nord, là, c'est une perturbation qui va arriver sur les côtes de la Manche, qui donnera un petit peu de pluie près de la Manche et au nord de la Seine, et beaucoup de nuages sur tout le reste de la moitié nord, avec des températures encore fraîches. Demain matin, on aura des petites gelées entre le nord reste le centre, et dans l'après-midi, température stable et fraîche. 11 à Colmar, 15 à Paris et jusqu'à 24 degrés à Toulon.
On va s'y habituer, forcément.
Bah, c'est l'automne, on rentre dedans.
Voilà, ça s'appelle l'automne. Merci beaucoup. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard.